dollars, qui, comme les précédents d'ailleurs, en comportera 5. Hein, il y aura cette année, comme les précédentes, 3 cycles de 5 séances. Le premier atelier cette année, qui est intitulé « Flandre en Land Allemagne, 3 petits points de suspension, 5 regards sur la peinture en Europe 16-18e siècle », a pour but, c'était une de vos suggestions l'année dernière, hein, a pour but d'essayer d'évoquer, via des regards que l'on n'a peut-être pas forcément l'occasion de beaucoup d'exploiter, des écoles picturales européennes, dont on parle peut-être moins souvent, ou en tout cas que l'on a moins évoqué dans nos ateliers. On a beaucoup parlé de la France, ou de l'Italie, par exemple, ou de certains grands maîtres de grandes écoles autres. Mais là, il s'agit peut-être d'aller dans des chemins de traverse et d'évoquer des choses, des domaines un peu moins abordés. Le principe va être, à vrai dire, dans chaque séance, en tout cas dans les 4 premières, parce que la 5e sera peut-être un peu différente et répondra à une autre logique, mais les 4 premières séances auront pour but, à travers l'œuvre d'un artiste, de rentrer, j'allais dire, dans un monde pictural spécifique qui nous permettra après de nous en ouvrir d'autres, vous le comprendrez dès aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, ce sera pareil. On passe par un artiste, on regarde un certain nombre de ses œuvres qui vont nous dire des choses sur, je dirais, l'école picturale à laquelle il appartient et le type de démarche qui est la sienne, mais qui nous amènera également vers d'autres artistes du même secteur, pourrait-on dire. Bref, on aura à chaque fois le même type de démarche. Alors, il y a parmi vous quelques petits nouveaux, et comme d'habitude, je vais vous donner nos petites règles. Je l'ai dit une première fois, je ne ferai que les passer rapidement les fois prochaines. C'est les règles sur lesquelles nous nous sommes tous mis d'accord, n'est-ce pas? 1. On n'hésite pas à prendre la parole, mais on ne la monopolise pas. Le bien, c'est que chacun puisse parler, ça c'est important. Vous êtes nombreux, c'est bien que chacun puisse trouver sa place dans les débats. 2. On va quand même suivre un peu une méthodologie qui est interne à chaque atelier. 3. On va limiter, du moins pour cet atelier, en tout cas parce que dans le prochain, je veux dire le prochain cycle, ce sera différent, celui consacré à l'art contemporain, tout à fait contemporain. Mais là, on limite les commentaires subjectifs. Nous avons une attitude d'historien de l'art. Le but est donc d'être des scientifiques et pas de dire nos avis, je dirais, privés, personnels sur des œuvres. On les aime, on ne les aime pas. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ici d'être des scientifiques. C'est ça, le but. 4e élément, on n'utilise pas Internet. Donc, on utilise Internet que nous avons dans notre boîte crânienne, mais pas celui que nous avons dans ces merveilleux appareils qui nous rendent le quotidien tellement plus merveilleux qu'avant et qui, souvent, nous encombrent un peu. Enfin, dernier point, connaisseurs, s'abstenir. J'entends par là que si certains d'entre vous, pour des raisons X ou Y, connaissent particulièrement bien telle ou telle chose qui est abordée dans l'atelier, je les remercie de ne pas, pouf, immédiatement mouiller le pétard et se précipiter sur la solution qu'ils aient. Le but, c'est que chacun, ensemble, progresse dans ces ateliers. Évidemment, si tout de suite la solution est dite, je vais dire, le jeu s'annule immédiatement. Et évidemment, je ne sais pas, a priori, qui sait quoi. Donc, peut-être que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, beaucoup de gens sont déjà très au courant. Et évidemment, ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc, je vous remercie, pour ceux qui connaîtraient déjà à l'avance certains éléments que je vais montrer, de limiter leur intervention immédiate. Tout le monde est d'accord avec ces règles-là? Je ne ferai que les passer les fois prochaines très rapidement, comme vous le savez, mais je tiens toujours à la première séance à les rappeler. Alors, je vous propose que nous entrions, si vous en êtes d'accord, dans le vif du sujet. On va commencer premier acte de cet atelier regarder rapidement plusieurs œuvres, qui sont donc plusieurs œuvres, plusieurs peintures d'un seul et même artiste. Je vais vous les passer assez rapidement pour qu'on se les mette dans l'œil. On va les regarder de manière un peu plus profonde après. Voilà le premier tableau que je soumets à votre sagacité. Mais il en est un deuxième que je vous propose ici. Il y en a 6. Un troisième. Voilà. On va revenir dessus, bien sûr. Voilà, c'est simplement pour vous faire l'œil aux œuvres sur lesquelles nous allons travailler. Et un petit dernier. Voilà. Voilà les six œuvres dues à un seul et même artiste qui vont nous permettre de rentrer dans le thème de ce premier atelier. Il est peut-être bon justement de commencer par l'artiste lui-même. Est-ce que vous avez une idée peut-être de l'école picturale à laquelle appartient l'artiste, peut-être une idée de l'époque, peut-être même, dans un deuxième temps, l'idée d'un auteur? Est-ce que vous avez une idée? D'abord, est-ce que vous avez une idée, commençons par le début, d'une période, grosso modo? On est à quelle période dans ces tableaux-là? 17e, 16e?
Fin
16e?
Non,
17e. Bon, je sens qu'il y a une majorité autour de fin 16e, 17e. On est au 17e. On est au 17e. Donc c'est un artiste du 17e siècle. Est-ce que vous avez une idée peut-être de l'aire géographique de provenance de cet artiste?
Flandre,
Hollande. Visiblement, ça va vers le nord. Vous êtes plutôt Flandre ou plutôt Hollande? Vous me direz, l'un n'est pas très loin de l'autre. Flandre, Hollande. C'est Hollande. Enfin, les deux sont très connexes et on a le droit de glisser de l'un à l'autre. Est-ce que vous avez maintenant l'idée d'un nom d'artiste plus coton, et le but n'est d'ailleurs pas forcément là, mais enfin, peut-être que vous auriez une idée. Pas Vermeer.
Jan Steen.
Bruegel.
Non.
Pas d'autres noms? Pardon? Hals? Franz Hals?
Non. Non.
Le peintre qui a réalisé ces tableaux, le voilà. C'est lui. Voilà l'auteur. C'est un autoportrait. Hein, l'auteur des tableaux que vous venez de voir. Et ce peintre, c'est effectivement Jan Steen. Jan Avigzoon Steen. Vous savez, très souvent, ne vous en faites pas, dans la titulature des Hollandais, vous avez le prénom Jan, le nom Steen, mais entre les deux, il y a souvent un nom qui se termine toujours par SZ, c'est le diminutif du mot Zoon, c'est-à-dire fils, donc ça veut dire Jan, fils de Avig Steen. Donc Jan est le fils de Avig Steen. Souvent vous avez, c'est pas systématique, mais voilà. Donc en fait c'est Jan Steen, mais souvent on l'appelle Jan Avigzoon Steen. Bien. Donc voilà l'autoportrait de ce personnage. Alors je vous dis peut-être, parce que là vous ne pouvez pas le deviner, quelques mots sur ce Jan Steen. C'est un artiste qui est né et mort à Leyde, donc on est vraiment en Hollande. Sa date de naissance n'est pas très sûre, c'est entre 1623 et 26. Beaucoup d'historiens s'accordent plutôt sur 25, mais ça n'est pas encore tout à fait assuré. Par contre, il meurt en 79, ça c'est tout à fait sûr. Donc c'est vraiment un artiste du XVIIe siècle, du plein XVIIe. Il est fils d'un brassier. C'est très souvent, dans la peinture ancienne, les artistes sont fils d'artistes. Là, ce n'est pas le cas. Son père, c'est un brassier. Donc il faisait de la bière. On le voit, Jan Steen, à l'université de Leyde, donc la ville où il est né. On sait qu'il va faire un apprentissage pictural dans un certain nombre de villes de Hollande. Par exemple, on va le trouver à Haarlem, auprès d'un peintre qui s'appelle Adriaan van Ostade. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. On va également le trouver à La Haye, auprès d'un peintre qui s'appelle Jan van Goyen. Goyen, si vous voulez. Il va épouser la fille de Jan van Goyen. Donc, c'est quelqu'un qui s'est formé auprès d'un certain nombre de peintres de son temps. Steen, une fois installé, va pas mal pérégriner. On le trouve à Delft, on le trouve à Harlem, mais enfin, il va surtout s'installer à Leyde. À Delft, d'ailleurs, chose amusante, il va lui-même, tout en étant peintre, créer une brasserie, une sorte de taverne, si vous voulez, plus exactement. Donc, vous voyez, c'est assez amusant de voir ces peintres qui sont capables d'être peintres, mais d'avoir un autre métier à côté, et un métier qui n'est pas forcément, entre guillemets, culturel. Il tient un cabaret en même temps qu'il est peintre. Mais ça, chez les Nordiques, ça ne doit pas nous étonner. Voilà. Notez également qu'à Leyde, il va participer à la mise en place d'une guilde. Vous savez, d'une gilde, on peut dire les deux. C'est très, très à la mode dans ces territoires du Nord, la guilde de Saint-Luc, en l'occurrence. Saint-Luc, vous savez, est le patron des peintres. C'est Saint-Luc qui a peint la Vierge. Hein. De ce fait, Saint-Luc est le patron des peintres. Et donc, il va fonder à Leyde, et d'ailleurs être président de la guilde de Saint-Luc. Il a donc un rôle, si vous voulez, important dans le domaine pictural. Enfin, donc, il va mourir à Leyde en 1679. Après une vie du reste très, très remplie, son œuvre est considérable. Des tableaux de Jan Steen, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est donc un artiste prolifique ou prolixe, je ne sais jamais quel est le bon mot, mais vous m'avez compris. Et c'est donc de lui dont on va parler aujourd'hui. Mais les points sur lesquels j'ai insisté là, si vous les avez bien intégrés, vont vraiment nous être utiles. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors je vous propose qu'on re-regarde à nouveau les œuvres que nous venons de voir. Premier tableau, que voici. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que voit-on? Qu'est-ce que dit ce tableau? Pardon? Une gourmande, une dame gourmande, oui, que fait-elle? Elle nous regarde. Elle nous invite à manger des huîtres. Hein? Hein? Pardon?
Oui, mais il y a une taverne au fond, apparemment.
Il y a l'air d'avoir une autre scène au fond, peut-être effectivement, peut-être une scène de taverne, oui.
Il y a un verre de vin.
Il y a un verre de vin, oui, plein d'ailleurs. Et un pichet à côté. Quoi d'autre? Oui, oui, et peut-être. Voilà, il y a effectivement un pain au premier plan, hein, un couteau.
Elle est habillée chaudement.
Habillée chaudement, c'est oui, effectivement.
Il y a le format aussi.
Oui, alors c'est un. Oui, il est en effet arqué sur le dessus. C'est un petit tableau d'ailleurs. Hein.
Ça tient à la fois de la nature morte et du portrait.
Alors, effectivement, on a à la fois un intérêt pour la nature morte au devant. Et est-ce que c'est vraiment un portrait, au sens où on en a parlé l'année dernière? Alors, c'est effectivement une femme en action. Elle est en train de préparer des huîtres ou de les manger. Oui. Voilà, c'est plutôt ce qu'on appellerait une scène de genre. Hein. C'est-à-dire, en effet, on voit une femme qui... a priori mange ou prépare des huîtres, hein, voilà. Elle va peut-être les manger parce qu'elle a un petit verre de vin, voilà. Enfin, c'est assez sympathique. À l'arrière, vous voulez dire? Alors, c'est bien une porte. Hein, donc, ce que vous voyez là est ce qui se passe derrière. Hein. En fait, à l'arrière. J'ai l'impression, j'en suis pas sûr, mais que c'est un personnage qui, lui, prépare les huîtres et que là, il est en train de les manger.
Hein? Oui, on est là, dans la cuisine.
Voilà, c'est-à-dire que là, il est même peut-être en train de préparer pour la personne qui est là des huîtres, on voit en train de les ouvrir, il y a des huîtres ouvertes devant lui. Là, c'est bien une collation, si vous voulez, au premier plan. Hein? Donc, c'est pas elle qui ouvre les huîtres, c'est bien elle qui les mange. Hein?
Elle est assise sur un siège avec un haut dossier.
Oui, on a l'impression de voir le dos d'une sorte de siège à l'arrière. Donc, je résume, on a là une scène de genre, mais qui intègre une dimension nature morte assez forte au premier plan. On a une femme qui déguste des huîtres, tandis qu'on les prépare à l'arrière. Vous avez insisté sur le regard, elle nous regarde, elle nous intègre en quelque sorte à la composition. Donc voilà pour, de manière très objective, ce que représente la scène. Et qu'est-ce que, maintenant qu'on a vu ce que ça représentait de manière objective, qu'on a décrit l'image qu'on avait sous les yeux, qu'est-ce que cette image peut peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, vous suggérer? Est-ce que ça dit quelque chose? On est devant une scène de genre, voilà, est-ce que ça va plus loin, pas plus loin? Qu'est-ce que, peut-être, vous suggère une image telle que celle-ci?
Elle attend peut-être quelqu'un.
Elle attend peut-être quelqu'un? Non. Un éloge de la bonne chair.
Elle est aguicheuse, quand même.
Aguicheuse. Là, déjà, quelqu'un parlait du regard tout à l'heure, effectivement. Hein.
C'est une invite. C'est une
invite. Une espèce de David, on reviendrait un peu à l'idée de l'attente. Vous parliez du regard tout à l'heure. Un regard un peu... Oui, comment est-ce que vous le qualifieriez, ce regard?
Une invite.
Non. Donc un regard de quelqu'un qui a envie de bien manger et puis de manger un bon plateau d'huîtres. Hein. À d'autres dégustations des huîtres. On aurait là quelqu'un qui, d'accord, est en train de manger des huîtres. C'est pas mauvais les huîtres quand on aime ça, mais un regard qui serait qualifié de coquin, c'est ça, hein? Un regard un peu invitant. Oui, vous disiez.
C'était un peu aphrodisiaque, mais.
C'était tout à fait aphrodisiaque. Il faut savoir que l'huître est considérée dans ces périodes comme un puissant aphrodisiaque. Hein. Et plus que ça, la nature même de l'huître est généralement considérée comme une métaphore du sexe féminin. Hein. Donc l'huître est tout sauf une petite chose, un petit crustacé sympathique et j'allais dire innocent. Hein. On est là devant quelque chose qui n'est pas du tout innocent. Certes, j'allais dire, l'épiderme du tableau, c'est une jeune femme qui va manger rien que pour elle, n'est-ce pas, quelques huîtres avec un petit verre de vin et puis un peu de pain, parce que c'est quand même pas désagréable. Mais il y a derrière toute autre chose, une charge coquine, pour ne pas dire érotique, qui est absolument certaine. Tiens, vous avez là une femme, vous avez bien noté dès le départ le regard, hein. Vous avez remarqué que ce regard était là qui invitait. On est en effet devant une femme qui invite à tout autre chose. Hein.
L'audace, c'est que ce soit une femme.
Pardon ?
L'audace, c'est que ce soit une femme.
Elle se dévoile elle-même quelque part. Hein.
Que fait-elle de la main droite ?
C'est elle qui invite, pardon.
Que fait-elle de la main droite ?
Elle a l'air de... Ici, oui. Je suppose... Je ne sais pas.
Elle doit tenir quelque chose.
Je ne sais pas. Ou alors peut-être mettre... Oui, du sel. Je ne sais pas. En tout cas, elle dispose quelque chose sur l'huître. Alors, autrement dit, on a là un tableau qui, a priori, est un tableau, une scène de genre très sympathique, une jeune femme qui se prépare à faire un bon petit repas d'huile parce que c'est pas désagréable. Ça, c'est, j'allais dire, la vision épidermique de l'œuvre. Mais il y a un sens derrière, hein, qui est sans ambiguïté pour n'importe quel spectateur du XVIIe siècle, hein, sachons-le bien. Hein, parce que l'huître, c'est un aphrodisiaque, que, encore une fois, l'huître, c'est une métaphore du sexe féminin, et qu'on a donc là une invite pour un tout autre voyage que simplement culinaire. Hein. Donc ça, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, qu'est-ce que vous direz un tableau du même artiste, toujours Jan Steen, comme celui-ci? Voilà. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez ici tout à fait la même chose, c'est-à-dire un tableau beaucoup plus sobre, hein, vous le remarquez, il y a une femme avec un instrument, alors je ne suis pas du spécialiste d'instruments de musique, hein, mais bon, et donc elle a toujours ce regard, insistant, qu'il est peut-être d'ailleurs d'autant plus ici qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui... rien autour. Hein. Vraiment, le tableau se concentre sur le regard en question. Donc vous voyez que l'artiste n'en est pas à son premier coup, si j'ose, en l'occurrence, cette expression.
Là, c'est plus encore...
Et là. Voilà. Alors effectivement, voilà un tableau qui s'appelle « Sobrement, femme à sa toilette ». Charmante scène de genre. Mais en fait, qu'est-ce qu'on y voit ?
Des jambes, surtout.
Il y a des jambes, effectivement. Elle est en train d'enlever ou de mettre ses bas. Un lit.
Non, elle les enlève.
Le chien dans le lit.
Le chien dans le lit.
Le pot de chambre.
C'est un chien. C'est un petit chien. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Le pot de chambre.
Il y a le pot de chambre au premier plan. Les mules. Les pantoufles, hein.
Les carreaux noirs et blancs.
Ouais. Donc on est là dans... Qu'est-ce que vous suggère aussi cette scène, justement ? Ouais.
Elle enlève les bas.
Oui, elle, oui, oui, parce qu'elle trace des...
Je suis pas spécialiste, je
voulais dire. Oui, oui.
Elle enlève les bas.
Oui. Elle les enlève.
Ah oui.
Mais non, parce que regardez...
Il y a les traces.
Vous avez la marque. De l'élastique en haut. Oui.
Là, et l'autre aussi. Et l'autre jambe aussi.
Oui, oui, l'autre aussi. Exactement. Donc elle enlève les bas. Absolument. Elle enlève ses bas. Absolument. J'avais pas vu ça. Pardon ? On peut se poser la question. Je vois bien la question qui apparaît. Mais c'est en fait, c'est l'artiste qui pose la question. Hein. Donc vous avez tout à fait raison de la poser. Quel est son métier ? En gros, est-elle professionnelle ou pas, hein? Oui. C'est ça la question. Mais c'est tout ce qui est dit là. Hein? Et précisément, on va le voir dans tous ces tableaux-là, ce qui intéresse quelqu'un comme Steen, c'est justement ce qu'il y a derrière votre question très maligne, c'est-à-dire l'ambiguïté. Hein? Est-ce que c'est une jeune femme comme ça qui le soir va se coucher, ou bien est-ce que c'est une femme qui fait profession de son corps, quoi, hein? La question est là. Et ce qui va passionner quelqu'un comme Jan Steen, mais au-delà de ça, l'un des grands enjeux de cette peinture hollandaise de genre du XVIIe siècle, c'est ça, justement. C'est de toujours rester dans cette sorte d'allusion entre un épiderme, après tout, c'est un charmant petit tableau qui représente... Mais derrière ce charme-là, il y a des questions plus piquantes qui se posent. Eh bien, cette ambiguïté-là, elle est au cœur de l'art hollandais du XVIIe siècle dans Zand. Alors justement, allons peut-être un peu plus loin. Regardons le deuxième tableau que je vous proposais. Quid ?
Médecin.
Voilà. Là, effectivement, il y a une jeune femme malade. Pardon ? Voilà, le médecin est en train de prendre le pouls de la malade. Donc, un médecin... qui est en train de consulter, ou plutôt une femme malade qui est en train de consulter son médecin. Bon, rien de spécial, rien de particulier ?
Il y a souvent un moulin.
Oui, ouais. Alors là c'est effectivement, alors ce que vous voyez là n'est à vrai dire, à mon avis, pas, je vais regarder près, mais à mon avis c'est pas un moulin, je pense que c'est une chaufferette. Ça ressemble à un moulin à café, vous savez, mais en fait ce que vous voyez dessus c'est une petite fiole. Je pense que c'est une chaufferette. Est-ce que vous avez là, c'est le réchaud qui va dans la chaufferette. Je pense. Une chaufferette pour les pieds, vous savez. Hein? Je pense que c'est ça. Hein? Elle est un peu malade. Elle a besoin de se chauffer les pieds, la pauvre chérie.
Elle a le regard moins vif que les autres.
Pardon ?
Elle a le regard moins vif que les
autres. Oh, elle est un peu malade. Hein?
Elle regarde quand même.
Oh, elle regarde quand même. Oui,
il y a l'instrument de musique.
Oui, il y a l'instrument de musique, oui. Bien dressé, l'instrument de musique. Hein?
Et une pendule.
Il y a une pendule. Je trouve aussi...
Hein? Il y a aussi
on va dire qu'on a l'esprit mal tourné, hein? Mais vous allez voir que non.
Hein? Il a pendule,
il y a
alors.
Coucou.
Il y a une pendule, absolument. D'ailleurs, qu'est-ce que cette histoire de pendule peut suggérer ? Voilà, l'idée du temps qui passe. Ça, c'est une idée qui n'est pas neuve dans la peinture. Hein. Cette idée du temps qui passe, quelque chose qui est très, très présent toujours dans la peinture. Vous avez raison, des peintures avec sablier, par exemple. Hein. Vous savez pourquoi, c'est une idée toujours du temps qui passe qui est ainsi représentée. Donc voilà, a priori, une petite scène bien sympathique d'une femme pas très en forme, que son médecin vient voir. Alors les mauvais esprits ont vu un instrument dressé dans le fond qui serait un peu phallique, mais c'est certainement une mauvaise tournure d'esprit de leur part. Alors regardons un autre tableau un peu du même genre.
La visite du médecin.
Jan Steen en a réalisé des pelletées. Hein, des visites de médecins, chez Steen, il y en a des dizaines. Que voit-on ?
Elles sont marquées, ces femmes.
Oui.
Elles ont des taches.
Oui, ah oui, mais ça c'est... Alors, vous parlez de celle-ci.
Oui,
mais ça, c'est parce qu'elle a une mouche. Ça, c'est très élégant.
Oui, mais la mouche servait à cacher.
Ah, ça sert à cacher.
Ah, ça sert à cacher.
Oui, c'est très élégant. C'est le comble de l'élégance.
Et l'autre aussi, elle a une mouche.
Ouais. Alors, que voit-on pas tous ensemble, parce qu'on ne va pas s'entendre. Alors, que voit-on dans ce tableau? Commençons par un bout, peut-être. Voilà, alors on voit la malade qui est à droite, là, dans le lit. Hein, là.
Fait.
Oui, alors n'allons peut-être pas trop vite en besogne, mais vous avez raison. Hein. On a une malade, mais en même temps, il faut que, assez vite, elle ne soit plus trop. Hein. Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans cette peinture?
Le médecin fait une prescription.
Le médecin fait une prescription au centre.
Et puis il y a un tableau en haut.
Il y a un tableau. Qu'est-ce que vous voyez dans le tableau en haut, effectivement?
Scène coquine.
La famille réunie.
Alors, on voit en tout cas les personnages réunis qui assistent à la prescription médicale, effectivement.
Une peinture coquine.
Qu'est-ce qu'on voit sur la peinture coquine?
Un couple enlacé.
Pardon.
C'est une femme nue,
non? Une femme nue, mais elle n'est pas toute seule.
Non, elle a un compagnon.
Voilà, il y a un compagnon. On voit un couple enlacé, quelques scènes mythologiques peut-être.
Hein?
Quelque amour des dieux. Oui, sur la porte, qu'est-ce que vous voyez? Un chérubin. Un cupidon. Hein? Un amour. C'est un petit amour. Il a même son arc et sa flèche. Hein? C'est vraiment très très clair. Ou alors, il ne faut pas voir Dieu pour regarder. Hein? Ça pourrait bien être une maison spécialisée d'ailleurs. Pour continuer en spécialisation, qu'est-ce qu'il pourrait.
Une mère maquerelle.
Voilà. Visiblement au centre, on a une mère maquerelle. Hein, suffisamment édentée d'ailleurs. Hein. On sera en Espagne, je serai une Célestine. Hein. Rappelez-vous de Goya par exemple. Hein, voilà.
L'enfant, il porte un instrument de musique.
L'enfant, qu'est-ce qu'il tient?
Un instrument de musique.
Pas un instrument de musique. Un clistère, absolument.
Ah, un clistère,
hein, qui évidemment vient rajouter une couche. Hein, voilà. Donc, vous avez bien compris le sens du tableau. Quand on le regarde comme ça, bon, c'est une visite d'un médecin à sa malade, hein, mais quand on regarde de près, et avec l'aide d'un artiste qui nous aide bien quand même, hein, entre l'amour là-haut, la petite scène ici, le garçon avec le clistère et la mère Macrel qui rigole, on est quand même dans quelque chose qui est très très clair et qui pour les spectateurs de ce genre de peinture au XVIIe siècle ne faisait aucune ambiguïté, hein, ou qui justement joue, mais de manière légère, avec l'ambiguïté d'une scène très simple, un médecin qui vient de prescription, mais de la deuxième lecture qui vient très vite derrière et que chacun peut voir de façon très claire, hein, c'est-à-dire l'idée plus professionnelle qu'il y a derrière.
Et l'autre homme, qu'est-ce qu'il...
Alors cet homme là-bas derrière.
Oui, oh ben... Ça peut être... Alors il y a un papier... Alors oui, il y a très souvent beaucoup de désordre. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément d'ailleurs chercher dans le papier un sens. Il peut en avoir plusieurs. Hein. C'est la lettre de quelques galants antérieurs, par exemple. Hein. Par exemple, hein, c'est possible, parce que vous verrez ça dans d'autres tableaux, hein, ça peut être ça. Mais vous allez voir, l'instrumentum qui accompagne ce genre de tableau est nombreux. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, souvent. Donc,
est-ce que c'était un sens de, pour donner la profondeur?
C'est quand même pas un avortement.
Ça peut être ça aussi. Pardon?
C'est pas un avortement.
Ah non, je pense pas. Non.
Non,
il faut voir que très souvent, on voit aussi dans ces tableaux-là, quelquefois, il y a des titres qui ont été donnés dès le XVIIe siècle, qui s'appellent quelque chose comme la malade d'amour, vous voyez. C'est-à-dire des choses qui nous montrent, ça peut être par exemple le cas du premier tableau que je vous ai montré, des jeunes femmes qui sont malades parce qu'elles sont en recherche de l'amour. Elles ne l'ont pas, elles le veulent, donc elles se languissent. Hein. D'ailleurs, quelquefois, ça fait bien rigoler. Je vais vous montrer par exemple le tableau suivant. Vous voyez, là aussi, n'est-ce pas, une femme languide. Et puis alors, il y a une dame. Est-ce sa mère? Est-ce une mère maquerelle? Ambiguïté, hein. Voilà, là, c'est moins évident. Puis derrière, vous avez le médecin qui est là et qui en gros rigole en disant « Oui, enfin, elle n'est pas malade. Elle est malade parce qu'elle veut voir un monsieur. » Voilà, hein. En gros, c'est ça qui est dit. Hein. Et vous voyez que ce genre de glissement qui laisse un peu les choses en suspens, c'est, encore une fois, toujours cette ambiguïté très piquante, très riche, avec que l'on trouve vraiment très systématiquement dans cette peinture-là, qui se veut piquante, ambiguë, un peu drôle aussi. Et avec toujours, vous l'avez remarqué d'emblée, hein, beaucoup, beaucoup d'éléments de nature morte, divers et variés. Par parenthèse, quelquefois, le glissement d'une scène comme ça, très, très ambiguë, on voit une jeune femme malade d'amour, n'est-ce pas, qui fait venir un médecin pour pas grand-chose, entre guillemets, va quelquefois, avec un pensif équivalent, vers ça. Hein. Vous avez vu, vous avez grosso modo la même jeune femme, hein, elle est renversée dans les deux cas, sauf que là, qu'est-ce qui se passe?
Elle tient le tableau.
Non?
Non.
Elle tient un verre.
Elle tient un verre.
Elle tient le tableau.
Alors, elle a une lettre à la main. Il y a un petit chien, là. Oh, je crois pas. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a la mère Macrel, il y a le.
Elle est fatiguée, il y a trop de clients.
Alors, ben, il y a peut-être un peu beaucoup de monde, oui. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe à l'arrière, effectivement?
Il y a un client.
Eh bien, il y a une personne. Il y a un client qui arrive. C'est l'arrivée des visiteurs.
Oui.
Donc vous voyez qu'on est là, vous voyez, on a vite fait de passer d'un tableau à l'autre, hein, d'une jeune femme languide et un peu malade, qui aimerait bien que ça lui arrive, à l'autre qui, vraiment, coche sur sa liste, quoi. Hein, après avoir reçu quelques lettres lui annonçant la venue d'un galant. Hein. Et ça?
Vous avez supprimé le titre.
Ah, mais c'est volontaire. Il va arriver après. Voilà. Là, je crois qu'on... Enfin, le voile est tout à fait levé. Hein. Elle n'est plus trop malade, si vous voyez ce que je veux dire.
Là,
elle va beaucoup mieux. Elle a retrouvé les couleurs. Son galant est lequel?
Non, il y en a deux.
Eh bien, il y en a deux. Alors, comment est-ce qu'on fait? On négocie et on hésite. On hésite entre quoi?
Le jeune et l'argent.
Et ben voilà. Voilà. On hésite entre la jeunesse d'un côté et la richesse de l'autre. Voilà. Et alors ça, c'est un très vieux thème qu'on retrouve dès le XVIe siècle avec quelqu'un comme Luca Cranach, hein, en Allemagne, hein, où ce genre de choses est très souvent illustré, mais que la peinture hollandaise reprend le choix, l'hésitation entre la richesse et la jeunesse. Hein. Vous voyez donc comment il y a dans l'art de Steen, à travers ces tableaux-là, une sorte de glissement, hein, entre, décidément, des scènes très gentilles, une petite malade qui a l'air disfaitée par son médecin, oh là là, qu'est-ce qu'elle va pas bien, jusqu'à des scènes vraiment beaucoup plus suggestives, comme celles que vous voyez là.
Il semble qu'il y a un reflet à droite, on voit quelque chose.
Ben, on voit la mère Macrel.
On voit sans doute la mère Macrel, effectivement, hein, qui débarque. Vous la voyez pas?
Si, elle est là, elle surveille.
Voilà, surveille que tout se passe bien, quand même. La mère Macrel espère certainement que ça va aller plutôt dans ce sens-là que dans celui-là. Hein. Parce qu'un étudiant sans le sou, c'est bien gentil, mais enfin, là, dans le gros coffre, il doit y avoir un peu d'argent. Ouais. Même plus intéressant. Et ça?
Une scène de cabaret.
Vous voyez que, mine de rien, on descend, hein, dans cette montée chromatique que je vous propose. Hein.
Enfin, c'est une scène de cabaret, pour pas dire de bordel.
C'est une scène de bordel. Ah. Voilà. Et que se passe-t-il?
Ben, elle vient donner à la mère Macrel son dû. Non, mais elle donne ses larmes.
Ah! Regardez bien. Regardez bien. Il y a des huîtres par terre. Absolument. Ça nous rappelle des choses, les huîtres par terre. Hein.
Elle donne ce qu'elle a volé dans la poche. Elle vole le gars. Elle donne à la mère Macrel.
Voilà.
Elle a pris la montre.
Exactement. Tiens, vous avez au premier plan la jeune femme en question. Son galant, visiblement, l'a fait pas mal et boire et manger. Les huîtres jonchent le sol. Il y a une copine qui vient d'enlever la montre et qui la donne à la mère Macrette. Et puis là derrière, il y a évidemment des musiciens.
Qui l'endorment.
Voilà, qui contribuent à, comment dire, accompagner l'affaire.
Hein. Oh, c'est pas une pipe ?
Pardon ?
C'est un instrument de musique ou une pipe ?
Ici, c'est une pipe.
Ben oui, c'est une pipe.
Là, c'est une pipe. Hein. Il y en a une là, elle est plus ou moins cassée d'ailleurs. Ça, les pipes et les pipes cassées, c'est très fréquent dans ces tableaux-là. Hein. Donc ce tableau, vous ne serez pas surpris que ce tableau qui appartient en collection du Louvre, hein, vous le connaissez peut-être, hein, s'appelle La Mauvaise Compagnie. Voilà, effectivement, ce jeune garçon n'a pas su se tenir, en quelque sorte. Enfin, on ne sait pas quelle est la mauvaise compagnie. Voilà, elle est peut-être double. Enfin, voilà, vous voyez ce genre de d'œuvre qui est récurrente dans l'œuvre de Jan Steen. Et on voit petit à petit, ces jeunes filles malades prennent assez vite les choses en main et deviennent ces figures prêtes, finalement, à escroquer leurs clients. Par parenthèse, ces questions médicales ont beaucoup intéressé Steen. Je vous montre un autre tableau, donc c'est un arracheur de dents. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ?
Il est ambulant, il vient dans
la...
Oui, ça se passe en plein air.
Oui.
Le personnage, il est disproportionné par rapport aux autres.
Lequel ?
L'arracheur de dents. Il a l'air énorme,
oui,
par rapport...
Mais c'est un enfant devant.
C'est un enfant devant, oui. Et puis il est assis, et puis vous avez des enfants tout autour. Hein. Voilà. Mais bon, il est vrai qu'il est peut-être un peu plus... Il tient de la place, l'arracheur dedans, effectivement. Ouais.
On l'a pas fait boire, donc il est pas mal.
Sans doute, parce qu'il y a des fioles, visiblement. Il a mal quand même, hein, vous aurez remarqué. Hein.
Elle a pas confiance, hein, parce qu'elle...
Oui, la mère, c'est sans doute la mère. Ah, elle est pas rassurée. Hein.
Ce sont des tableaux de quelle dimension ? Parce qu'il y a comme un coup de projecteur, et c'est très...
C'est pas très grand.
Très rapproché.
Oui. Non, ce ne sont pas des tableaux. Alors, je ne peux pas vous dire, je ne les ai pas mis, mais c'est des tableaux qui font, vous voyez, les plus grands font autour d'une. Voilà, 40, 30, 40 centimètres. Hein. Ce n'est pas des tableaux très, très grands. Hein. C'est vraiment des tableaux que les gens de Delft, de Leyde avaient chez eux. Hein. On a ça chez soi. Dans son salon, on a ça. Hein. Ah, mais oui, on a absolument. C'est des tableaux de proximité. Hein. On a ça chez soi, sous ses yeux. Mais justement, un tableau comme ça...
Dans
certains milieux bourgeois, il faut quand même avoir 3 sous. Même si quelqu'un comme Steen est quelqu'un qui produit beaucoup, bon, il faut quand même avoir 3 sous pour acheter un tableau de Steen. Hein. Mm-hmm. Mais enfin, c'est faisable en même temps. Hein. Donc on a ça chez soi. Et justement, avoir ce genre de tableau-là chez soi, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que suggère ? Qu'est-ce que dit ? Qu'est-ce qu'évoque un tableau de celui-ci ? Quel est, vous avez un intérêt d'avoir un tableau comme ça, imaginez, vous venez chez vous, au salon soir, paf, vous avez ça sur le mur, et à côté, vous avez la prostituée, son médecin. C'est quoi ? Pourquoi ? Le but, c'est quoi ?
C'est la vie.
C'est la vie. Alors, effectivement, il y a une sorte de célébration de la vie, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce tableau-là, par exemple.
C'est un tableau un peu philosophique, parce qu'il
oui.
invite à réfléchir.
Oui, et par exemple, à réfléchir, à penser à quoi ?
À se laver les dents.
Ça, c'est un tableau pédagogique sur ce point, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais peut-être pas que.
À la souffrance.
Hein. C'est donc un tableau qu'on pourrait, à qui on pourrait donner quel qualificatif.
De rendre.
Moral, voilà, oui.
Oui, c'est très moral.
Qui suscite une certaine humilité, effectivement. Hein. Une certaine compassion, même. Hein. Parce qu'on n'a pas très envie d'être à sa place.
Hein.
Oui. Donc il y a donc une compassion pour ce jeune homme. Alors, tout ça est assez drôle, hein, mais il y a une manière dérisoire de voir la compassion, ou une manière compassionnelle de voir la dérision. On est toujours dans ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire cette ambiguïté. Est-ce qu'on doit rigoler d'un tableau comme ça, ou au contraire, se sentir mal ? Eh bien, les deux. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant dans ces tableaux-là. C'est que ce n'est pas des tableaux, vous voyez, d'un seul tenant où on doit rigoler d'un gosse qui amasse sur un marché. On est un peu entre les deux, quoi. C'est un tableau qui fait en manière très très, 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 très équilibrée, comme les tableaux de prostitution qu'on a vus avant, hein, sont comme ça, sur le fil du rasoir, entre deux choses. Le sérieux et le pas sérieux. La compassion et le rire, vous voyez. Et ça, c'est le propre même de ces artistes dont Jan Steen Je ne l'ai pas choisi par hasard. Hein. Et peut-être un des exemples les plus étonnants, vraiment, c'est l'enjeu même de tous ces artistes-là hollandais, de ce qu'on appelle le siècle d'or. Qu'est-ce qui se passe là ?
Là aussi. Hein.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe ?
On ouvre un accès.
On soigne. Donc effectivement, on est en train d'ouvrir un abcès et ça saigne et le sang tombe dans le bassin qui est là. Il y a un médecin.
Ça intéresse beaucoup de monde.
Oui, ah oui, oui. Ah, il y a toujours beaucoup de monde pour à la fois rigoler et puis être un peu inquiet. Hein. Ouais, les deux. Et est-ce que ce genre de tableau vous rappelle peut-être quelque chose ou pas du tout ? Donc c'est un peu dans la lignée du tableau précédent, on est d'accord.
Oui, tout à fait.
Oui, alors c'est toujours lié de la souffrance. Hein. Ouais, toujours le même sens. Ça, c'est aussi une représentation qui rappelle quelque chose qui a existé volontiers au siècle précédent, et même au XVe siècle. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez telle œuvre de Jérôme Bosch, par exemple, qui s'appelle « L'extraction de la pierre de folie ». C'est-à-dire qu'on partait du principe que certaines personnes étaient folles, étaient habitées de folie, et qu'on pouvait, symboliquement parlant, leur enlever la pierre de folie. Et dès le XVe siècle, on voit des artistes, et Fernand Stein est là dans cette lignée, hein, on voit des artistes qui représentent un médecin, c'est pas qui ouvre, alors c'est soit le crâne, soit le cou, etc., de certaines personnes, pour extraire cette pierre qui est la folie en eux. Hein, voilà. Donc il y a là, en fait, dans ce travail que fait Stein, hein, il n'y a pas du tout une invention d'un type, le médecin qui vient soigner. C'est au contraire la prise en compte, la prise en charge d'une vieille idée que l'on voit dès le Moyen-Âge, hein, du médecin qui vient soigner, alors qui quelquefois soigne vraiment, hein, comme ici, il enlève vraiment le mal, qui quelquefois soigne en faisant assez mal, comme les dents, ou bien soigne une fausse maladie, enfin plus ou moins fausse, plus ou moins pas fausse, hein, parce que chez les prostituées, il y a toutes sortes de choses, évidemment, comme on l'a vu avant. Hein. Donc vous voyez cette place du médecin dans la peinture, que Molière, d'ailleurs, à la même époque, hein, prendra pour le théâtre, hein, c'est une place vraiment très importante, mais qui vient de très très loin, hein, qui vient du Moyen-Âge, et on le voit bien, dans un tableau tel que celui. Bien. Mais il faut qu'on continue. Parce que c'est pas fini. Ah oui, je voulais vous montrer ça quelquefois. Il a fait aussi ces scènes-là, mais de manière beaucoup plus développée. Hein. Voilà, je vous montre ça parce que il ne faut pas imaginer que c'est toujours des scènes à huis clos avec 3-4 personnes.
Ça peut être quelquefois beaucoup plus.
Oui, on a là, au XVIIe siècle, quelque chose qui est à mettre décidément dans la continuation de Bosch, sauf qu'on est plus tardif. Alors, tableau suivant.
C'est toujours la même fille, hein, qui a présenté. Elle est mignonne avec son nez rousse.
Un petit nez poussé. C'est un atelier d'artiste. Hein. On est dans un atelier d'artiste, effectivement. Ouais. Voilà, il y a en effet un professeur, un peintre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait donc ? Oui, il dessine.
Il dessine. Il
regarde ce qu'il fait.
C'est un pédagogue, il montre.
Voilà, c'est peut-être plutôt un pédagogue. Hein. On peut penser qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à votre avis ? Oui, voilà, c'est ça, c'est peut-être plutôt ça. Il est peut-être plutôt en train de corriger un dessin. Elle a un crayon à la main. Hein. Donc, visiblement, elle est là. Ce serait quoi, alors, si elle est là et qu'elle dessine aussi ? Voilà, c'est plutôt une leçon de dessin, si vous voulez. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre donc, dans ce tableau qui, a priori, nous montrerait un peintre pédagogue en train d'enseigner le dessin à une jeune femme ?
Oui, mais il y a aussi les éléments qu'on va copier, la statue.
Ouais. Voilà. Alors, effectivement, il y a énormément d'objets. Hein. Énormément.
Même en hauteur.
Et puis, derrière, il y a un chevalet.
Derrière, il y a un chevalet.
Mais il y a la musique aussi.
La musique aussi.
Par deux fois.
Oui, il y a deux fois.
Et au fond.
Au fond aussi. L'enfant où ?
Ah oui, il y a
l'enfant. À quel endroit ? Ah, l'enfant ici, ouais. Ouais. Pardon ?
Il y a des personnes derrière l'enfant ?
Non.
Non, non, non.
Non, 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 il y a des choses qui pendent, des modèles en plâtre.
Il y a un luth, là, il y a trois instruments de musique.
Il y en a plusieurs, oui. Alors, justement, cette profusion d'instruments, d'objets, qu'est-ce qu'elle vous évoque, peut-être ?
C'est un maître d'art, il est polyvalent.
Oui.
Il tient une palette derrière la femme.
Oui, il tient une palette, hein. C'est bien un peintre. Hein. Il tient un palette et il y a son chevalet derrière. Donc, c'est un peintre. Hein. Mais effectivement, c'est un... la peinture, c'est quelque part hein, la mère des arts. Donc, tous les arts sont convoqués, dont la musique. Hein,
et le papier est bleu, parce qu'il y avait souvent des travaux sur papier bleu.
Papier bleu, oui. Oui. Bien, donc on a finalement une scène d'atelier où une jeune fille prend des leçons de quelques maîtres dans ce bric-à-brac qui est typique de l'atelier d'un peintre, justement. Hein ? On en reste là ?
Un initiateur,
absolument. Hein, c'est celui qui fait la leçon de dessin.
Mais alors, peut-être
même
au-delà, non ?
Pardon ? Eh bien oui, et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous donnerait cet indice-là ?
Le petit cuivre.
Eh bien voilà, absolument. Parce que on peut être un peu inquiet. Hein, voilà. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison de l'être, encore une fois. Hein. Faut pas non plus voir des choses partout. Hein. Mais quand même. Et ça, c'est Stine. Et ça, c'est cette peinture-là. C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément de nous montrer une prostituée en train d'accueillir je ne sais quel galant, mais c'est quelquefois de laisser planer le doute, si vous voulez. Là, ce tableau, par exemple, une leçon de dessin. Ok. N'allons pas voir ailleurs. N'empêche que Stine, comme par hasard, un style saupoudre, si vous voulez, cette affaire, d'un certain nombre de petits indices qui fait que ben là, il y a un petit amour qui est là, qui plane sur la scène, comme par hasard. Hein. Quand on sait ce qu'il est capable de faire par ailleurs, on peut quand même se poser des questions. Je posais des questions aussi devant cette jeune fille qui regarde ardemment cet homme nu qui est face à elle, quand même. Hein. Voilà. Oui ? Absolument, cette question de conjonction religieuse hein, joue très fort là-dedans, effectivement, hein, avec toute la question d'une morale, finalement. Hein, et donc, parce que la Hollande est traversée par ces questions-là à cette période. Hein, donc, cette sorte de mise en dérision, on en rigole d'un côté, mais on en rigole peut-être pour être sérieux de l'autre, hein. Ça doit être situé au cœur de ces enjeux qui sont ceux de la religion, enfin des questions religieuses à l'époque, tout à fait. Hein. Donc il faut bien avoir en tête ces questions, tout à fait juste.
La jeune fille a l'air heureuse dans les tableaux parce que peut-être justement qu'elle va vers l'interdit.
C'est une des questions, effectivement. C'est des tableaux qui, finalement, sans donner de solution, mais en nous la laissant à nous, hein, touillent ces problématiques. Hein. Elles nous les présentent, elles font planer des choses, on est sur le fil du rasoir. Après, on est laissé dans cette ambivalence et à nous de faire notre sel et de voir la morale qu'on peut y mettre. Hein, à une époque qui est en effet traversée par des questions, je m'en touchant, soit à une morale plus rigoureuse, une sorte de rectitude, soit à une sorte de, j'allais dire, de regard sur le monde qui est plus leste, en quelque sorte. Hein. Et ces tableaux posent ces questions.
Le grand rideau a-t-il un intérêt particulier ?
Ah, rideau, ça, effectivement.
Rideau, une tapisserie pendue.
Oui, alors, c'est intéressant, le coup du rideau, effectivement. Qu'est-ce que ça peut vous suggérer ?
Bah, ça cache autre chose par derrière.
Oui, ça cache autre chose par derrière, oui.
Ça encadre... C'est comme le théâtre.
Oui, alors il y a effectivement un côté théâtre avec ce rideau, hein, absolument. Mise en scène. Hein. Et puis ça cache, ça veut dire qu'il y a des choses derrière.
Et ce n'est pas un plafond, c'est une voûte d'arête.
Oui, absolument.
tout simplement un décor que le peintre utilise quand il veut faire ses tableaux.
C'est tout à fait ça. C'est effectivement un élément que le peintre a mis là pour... parce que quelquefois, il faut couper l'atelier pour couper une lumière, avoir une draperie derrière un personnage, etc. Donc, cette draperie, elle est là pour, comment vous dire, parce que ça fait partie du bric-à-brac dont le peintre a besoin dans l'atelier. Mais vous savez aussi, d'ailleurs on en avait parlé l'année dernière ou l'année d'avant, que la draperie en peinture, ça n'est pas neutre. Hein. C'est la draperie de Zeuxis, hein, ce peintre mythique, etc. Alors ça, peut-être qu'on aura en reparlé, on verra. Mais effectivement, la draperie, elle est là parce que c'est un instrument du peintre, mais c'est également quelque chose qui, en peinture, a une autre signification. Vous avez parlé de théâtre aussi tout à l'heure, et ça, c'est important. Hein. Y a, même si le théâtre, à cette époque, c'est pas les trois coups avec les rideaux, etc., mais quand même, les pendrillons, les éléments de tissu qui pendent sont un élément du théâtre pour voiler, dévoiler. Donc la draperie n'est sans doute pas si innocente. Elle fait partie du bric-à-brac du peintre, mais pas que. Mais de ça, on aura peut-être à repartir.
Encore.
Je voulais simplement voir à montrer, parce que vous avez montré dans le tableau précédent à quel point les objets étaient importants. Hein. On est quand même dans le Nord. Hein. La nature morte, en Lande et en Flandre, c'est important. Hein. Là, on est en Lande. Et vous voyez à quel point, chez des artistes comme ça, l'objet prend la... On l'a vu dans le tableau d'avant, avec une surpopulation d'objets. Là, on le voit dans ce tableau-là, qui nous rappelle celui de tout à l'heure, hein, avec notre même dame, qui est en train encore de s'enlever ses bas, avec le chien dans le lit. Enfin, c'est la même chose.
Oui, mais il y a l'architecture du premier plan qui enfonce.
Absolument, absolument. Mais, et vous voyez à quel point les objets, notamment les mules, hein, ou le luth, je pense que c'est un luth, au premier plan, viennent avoir de l'importance. Hein. L'objet, comme magnifié justement par cette porte, hein, viennent là pour accompagner... Enfin, l'objet a de l'importance. Dans sa profusion comme antérieure, bon, il y avait 100 objets sur un petit tableau, là, il y en a moins, mais la manière dont ils sont posés, disposés, mis en valeur, fait que l'objet, c'est très, très important. Hein. L'objet est capital chez des artistes comme ça. Je voulais vous le montrer là également, dans un autre tableau de Steen, où vous voyez aussi plein d'autres objets. Alors là, on est dans un contexte plus rustique, hein, c'est une danse paysanne, pour faire vite. Hein. Et vous voyez vraiment qu'il y a une complaisance à mettre partout des tas d'objets. Qu'est-ce que vous voyez là ? Il y a un tonneau, mais à côté du tonneau.
De la poterie cassée.
C'est pas de la poterie.
Des huîtres.
C'est pas des huîtres. C'est pas des oiseaux. C'est pas de la mie de pain.
Des pipes cassées, non ?
C'est pas... Alors, ça ressemblerait à des pipes cassées, mais c'est pas des pipes cassées.
Est-ce qu'il y en a une entière à droite ?
Ouais. Mais ça, c'est pas des pipes.
Mais on voit pas, alors.
C'est cassé. Non, pas un vase. Ce sont des œufs. Des coquilles d'œufs.
On peut pas voir.
Voilà. Vous avez des coquilles d'œufs au premier plan. Ça peut vous suggérer des choses, ça ?
Un œuf, c'est de la fécondité.
L'œuf, c'est la vie.
Ah, voilà. L'œuf, évidemment, c'est la vie. Hein. Et l'œuf cassé, dans l'emblématique de Cesare Ripa et dans l'emblématique telle qu'elle se met en place au XVIe siècle et telle qu'on la vit encore au XVIIe, l'œuf cassé, c'est la vie cassée. Hein. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du sablier, etc. Hein. C'est quelque chose qu'on trouve de manière sempiternelle dans les natures mortes. C'est l'idée de la vie qui passe, si vous voulez. C'est la même chose. Donc vous voyez que l'objet est très important dans ce qu'il peut vouloir dire ou dans, j'allais dire, l'ambiance qu'il instille. Hein. C'est le coup de la draperie tout à l'heure. La draperie, elle est intéressante parce que la draperie, elle fait l'atelier du peintre. Donc, l'atelier de peintre, il y a toujours une draperie pour faire un fond, etc., pour cacher de la lumière, etc. Mais la draperie, en plus, elle dit quelque chose. Donc l'objet, dans sa profusion, dans sa mise en place comme ça, est là pour aussi bien... j'allais dire, la qualité d'objet qui est la sienne, mais aussi ce qu'il veut dire. Cette double entrée de l'objet, elle est vraiment capitale. Mais passons à une autre composition. Une mendiante avec un enfant à droite.
La diseuse de bonne aventure.
Ah, une diseuse de bonne aventure, peut-être. En tout cas, à droite, on voit une vieille femme avec un enfant. Bien.
À gauche, il y a une jeune femme, mais elle a l'air maladive, ah, oui, possible. Très maladive.
Ah, carrément. Qui sait ? Qui sait ?
Elle n'est pas épanouie, la petite jeune fille. Là.
Donc il y a une jeune fille au premier plan, ok. Une jeune fille d'un bon milieu, oui, oui, on est là. Ce qui veut dire que la personne à droite ne serait pas du même milieu que la personne à gauche. On est d'accord, hein.
Il y a un ravissant bouquet de fleurs dans la
fière. Exactement.
Alors il y a lui qui trône sur son siège. Il y a un monsieur au milieu qui trône. Quel le statut peut-être, ce monsieur ?
Un bourgmestre ?
Un bourgmestre peut-être, oui. Oui, c'est un grand bourgeois, hein. Personnage important.
On dirait qu'il fait une trace de malade.
Pardon ?
On dirait qu'il fait une trace de malade.
La jeune fille est malade. Oh, elles ne sont pas toutes malades non plus.
Elle n'est pas contente. Non, mais elle n'est pas arrivée.
Elle n'est pas contente de ce que fait son père.
Elle n'est pas contente de ce que fait son père.
Son père, bon. Elle voudrait donner.
Oui, là, on disait peut-être qu'on est en train de la vendre, entre guillemets, hein, à la dame à droite. Hein. Non, mais la vendre, pas la vendre chez Ross, mais négocier certains services. Une entremetteuse.
Qu'est-ce qu'il tient à la main ?
Un gant ou un papier ?
Il tient un papier. Okay. Donc, pour résumer, on a une femme entre la mendiante et la diseuse de bonne aventure, assistée d'un gamin qui vient voir un monsieur, une sorte de bourgmestre bien établi, qui a auprès de lui une jeune femme d'une condition semblable. On a là deux personnes de la société convenable, de la ville.
On est en extérieur. Et plus
on est en extérieur. Hein. On est devant leur maison avec un très beau bouquet, belle maison avec de beaux volets bien peints. Enfin voilà. Alors, au milieu de la ville, hein, on voit même quelques églises qui se dressent dans le fond. Qu'est-ce que vous diriez peut-être du statut, au-delà du statut social, hein, de ces deux figures-là, où on a bien vu que là, il y avait une pauvresse, en gros, et là, des gens de la haute société. Bon. Au niveau de la peinture, cette fois au niveau pictural, y a-t-il une différence de statut entre ça et ça ?
À droite, c'est toujours dans les mêmes tons.
Oui.
C'est couleur chaude.
À gauche, c'est couleur brillante.
Oui. Ouais. Okay. Donc on a l'impression effectivement un peu de deux ensembles, hein, mm-hmm. D'accord. Et ces deux ensembles peuvent peut-être correspondre à deux statuts picturaux différents. Rappelez-vous un de nos ateliers de l'année dernière, pour ceux qui y étaient. Y aurait-il des mauvais élèves ?
Alors,
pas révisé assez durant l'été. Hein. Bleu du ciel, ouais.
Ils sont beaux les ciels.
Très beau ciel. Ah bah les ciels du Nord. Alors,
elle est quand même costaud. Elle est presque aussi grande que le monsieur qui est assis.
Ah oui, oui.
Mais alors, l'homme est massif. Et il est
assis, monsieur.
Il est massif et il est dominant.
Mais encore une fois, je repose ma question peut-être d'une autre manière, mais on a une mendiante avec un gosse d'un côté et quelques bourgmestres avec une jeune femme de bonne condition de l'autre. Y a-t-il picturalement parlant un statut différent entre les deux figures de droite et les figures de gauche. Je ne parle pas de statut social. Il y a une pauvre, en gros, hein, et puis un bourgmestre. Bon, donc on a riche et pauvre, bien. Mais le statut pictural.
À gauche, c'est le commanditaire.
Pardon ?
C'est peut-être le commanditaire du tableau.
Alors, on parle de commanditaire. Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous disiez quoi, dans le fond ?
Moi, je disais à gauche, ce sont des portraits, et à droite, c'est une scène de vie.
Voilà, mais en fait, les deux se recoupent. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez à gauche deux portraits. C'est-à-dire sans doute le portrait du commanditaire, effectivement, hein, et de sa fille. Alors qu'à droite, c'est pas du tout des portraits, c'est une mendiante, quoi, une mendiante lambda. Hein. En clair, le commanditaire a fait faire son portrait, et on sait que c'est son portrait et celui de sa fille, d'ailleurs. Hein. Bon, il ne la vend pas. Hein. Et à droite, vous avez une mendiante, mais qui est une mendiante de convention. Hein. Donc effectivement, il y a portrait là, pas portrait là. Hein, voilà. Donc on a un tableau où il y a deux statues en même temps. Parce que ça, c'est bel et bien. Il a fait poser des gens alors que là, pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on sait ce que c'est, on sait qui est le personnage. D'ailleurs, le personnage a bel et bien été bourgmestre de la ville, hein, de Lille. Hein. Et voilà, donc on a là quelque chose qui montre, vous le voyez, un double, qui montre finalement côte à côte une réalité, d'ailleurs contractuelle, hein, c'est un portrait commandé par quelqu'un, etc., une réalité absolument tangible, et de l'autre côté, une virtualité, mais à travers un type, le type de la mendiante, plus ou moins diseuse de bonne aventure, etc.
Hein. Pourquoi donc, cette association, alors ?
Mais peut-être parce que...
Alors, ben, je vous pose la question.
Mais peut-être parce que ce bourgmestre, enfin, il veut montrer qu'il est attentif à la pauvreté, à la... C'est pas quelqu'un qui...
Voilà. Je pense que c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, on peut peut-être même imaginer que la lettre qu'il tient vient peut-être de la dame. Hein.
Oui.
Voilà, peut-être. Donc, elle a l'air, en effet, d'une pauvresse, d'une mendiante, d'une diseuse de bonne aventure. C'est aussi quelqu'un qui vient apporter sa requête. Hein. Donc voilà, on est là dans, on va dire, la sollicitude aux pauvres, en quelque sorte. Hein. Je voulais vous montrer un tableau qui est un peu du même topo, hein, du même artiste, bien sûr, qui représente un peu la même chose. Qu'est-ce que vous voyez là ? Voilà, c'est ça, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez le portrait de la jeune Jacoba Maria von Wassenaer, ici, et autour, vous avez un poulailler, et deux figures, alors qui sont des figures là aussi un peu comme la mendiante de tout à l'heure, hein, avec bien sûr un contraste bien, bien pesé, hein, comme tout à l'heure, entre le portrait de la jeune fille charmante, innocente, qui est en train de nourrir un agneau, comme Sainte Agnès, hein, Agnès s'appelle Agnès qui nourrit un agneau, vous le savez, hein, voilà, donc une innocente au centre, hein. Et tout autour, on a deux paysans, dont un peu rude, hein, une sorte de nain au manteau à moitié arraché, et puis toute cette volaillerie, n'est-ce pas, qui vient évidemment délicieusement, mais de manière un peu contondante, hein, équilibrée.
Il y a un beau bâtiment au fond.
Ah, il y a un château. Oui, c'est, oui, absolument. C'est la fille du propriétaire du château qui est dans le fond. Et elle apparaît dans le poulailler du château et dans cette sorte de basse-cour immense, mais au milieu de deux paysans qui sont ravis, n'est-ce pas, de voir cette jeune fille en train de donner à boire. Et donc vous voyez ce contraste volontairement très calculé, hein, entre le portrait et des personnages entre guillemets plus conventionnels et qui sont évidemment d'un autre milieu social. Hein. Donc il y a une sorte de contraste très calculé, puis entre évidemment cette jeune fille qui est au centre, hein, et puis toutes ces volailles, n'est-ce pas, tout autour, et qui viennent accompagner la scène.
Et il y a un pan.
Il y a un pan, ah oui.
Mais qui veut dire quelque chose ?
Le pan, vous savez, l'iconographie, c'est le pan dans l'iconographie chrétienne. C'est un animal qui est incorruptible, c'est-à-dire que la chair du pan ne pourrit pas. C'est pour ça que souvent, vous avez, je pense ne serait-ce qu'à la Vierge du chancelier Roland Van Eyck, hein, vous avez dans le fond des pans près du Christ, parce que c'est une manière de suggérer le caractère incorruptible du Christ, éternel, si vous voulez. Voilà.
Il y a la colombe aussi.
Il y a aussi cette espèce d'immense joie. On voyait la joie des objets, n'est-ce pas, tout à l'heure. Là, vous voyez la joie des animaux. Hein. Ça, c'est aussi très nordique. Hein. On y va, quoi. Hein. On ne présente pas trois bouts de colombe. Il y a carrément 100 oiseaux, puis c'est bon, quoi. Hein. Vous savez, c'est le coup de l'atelier de tout à l'heure, quoi. Hein, où il y a des quantités d'objets. On y va, quoi. Hein. Le goût, l'intérêt pour cela. Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Un boulanger.
Voilà. Un portrait d'un boulanger.
C'est un portrait,
et de la pâte, et la femme du boulanger, on est pagnolisé, n'est-ce pas ? Il y a même le fils du boulanger. Hein. Voilà, le boulanger, évidemment, un petit vitron, absolument. On est... Voilà, c'est un boulanger de Leyde qui a été portraituré par Steen. Ils sont très fiers de leur pain. Hein. Voilà. Et ça,
un joueur de lutte.
Pardon ? C'est le peintre lui-même. Hein. Ce que vous avez là, c'est un autoportrait. C'est-à-dire que vous reconnaissez peut-être, vous le reconnaissez d'après l'autoportrait que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. C'est le peintre lui-même. Et qu'est-ce que vous auriez à dire de cet autoportrait, justement ?
Ouais. Il est heureux.
Il est heureux, oui, il est heureux, il est content, ouais. Et quoi même d'autre ?
Ça fait un peu
content de lui ? Un peu, mais... Pardon ?
Un peu goguenard.
Alors voilà, je crois qu'il se moque autant de lui que de nous. Hein. Voilà.
Il y a le rideau très classique derrière.
Le rideau classique derrière. Mais je crois que c'est en effet un tableau où le personnage est dans la dérision de lui-même comme dans la dérision de l'autre. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est là dans un tableau qui, une nouvelle fois, est sur cette corde raide où on ne sait pas trop, en gros, s'il se fiche de notre figure ou s'il se fiche de lui-même. En fait, c'est sans doute les deux. Et cette espèce de manière d'auto-dérision, de se dire finalement je ne suis pas si important que ça, qui encore une fois n'est pas sans lien avec ces questionnements sur la place de l'homme sur Terre, tels qu'on se les pose en l'an du XVIIe siècle, hein, qui est à l'œuvre dans un tableau tel que celui-ci. Il y a un côté je ne me prends pas au sérieux qui est très clair là-dedans. Hein, et qui est, d'ailleurs, qui transparaissait déjà dans son autoportrait, plus sérieux de tout à l'heure, mais qu'on revoit ici.
Ça ne rappelle pas des tableaux d'un Anglais ou d'une. Les têtes, là, un peu...
Ça
oui, ça me rappelle les tableaux de l'année dernière.
Ah, sans doute. Je vois pas forcément quoi, mais sûrement.
Je voulais savoir, au niveau des autoportraits, comment est-ce qu'il se... Pour faire son autoportrait,
miroir.
Miroir.
Miroir complet, là où il est assis, et puis...
Oh, ça, chacun sa technique, mais en effet, le miroir, c'est en tout cas certainement le miroir pour sa face. Après, c'est peut-être plus simple. Enfin, je dis ça, j'aime ma fille d'autrement.
Il
tient
le pinceau et en même temps le lutin. Donc, c'est pour ça que je posais.
Oui, oh ben, il faisait, si vous voulez, là, il faisait son visage. Après, c'est une pose de convention, il présente le reste comme. Il peut faire poser quelqu'un d'autre pour son corps, si tant est qu'il ait besoin d'un modèle. Hein. On peut prendre un modèle, hein.
Parce que les photos n'existaient pas.
Ah. Pas précisément.
Ah oui, alors là, c'est...
Alors, ce rideau dominant. La scène de...
Le rideau. Vous vouliez du rideau, vous en avez. Hein? Alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire du rideau? Commençons par là.
Il est théâtral, ce rideau.
Alors là, il est très théâtral. Hein?
Il a une place importante.
Il a une place capitale.
Alors, il dissimule une mezzanine.
Il dissimule une sorte de mezzanine. Hein. À vrai dire, ce rideau, on ne comprend pas très bien, si.
Non. C'est presque un morceau, comme une étude, quoi. Comme un travail,
ah oui, mais il est soulevé pour nous révéler la scène.
Et voilà. Donc, c'est un rideau qui est soulevé pour nous révéler la scène. Donc, vous parliez de théâtre tout à l'heure, ben, c'est le rideau qui se lève sur la scène, hein, quelque part. Hein. Mais ce rideau, est-ce que, encore une fois, ce rideau, quel est son statut, là aussi? Ouais.
Il faut pas qu'on prenne la scène au sérieux.
Oui. Mais est-ce que le but, c'est de représenter un vrai rideau qui est dans la scène, dire cette scène, vous arrivez dans une auberge, vous voyez la scène, il y a un rideau là qui pend sur la mezzanine.
Moi je trouve que c'est une étude de rideau. C'est une étude de rideau. C'est comme,
alors ça peut être une façon d'être à distance, mais de quelle manière? Oui, alors ça, vous allez voir à quel point c'est juste. En fait, le rideau que vous avez là, encore une fois, je repose ma question. Est-ce que c'est... Imaginez que vous allez dans cette auberge. Vous entrez, là, vous ouvrez la porte, paf, vous retrouvez devant ça. C'est-à-dire qu'il y a un grand rideau qui pend sur une mezzanine et c'est comme ça que ça se passe?
Non.
Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ce rideau est peut-être, en fait, la fausse représentation d'un vrai rideau qui serait là pour cacher la peinture. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit l'année dernière, hein? Très souvent, vous rappelez, on mettait devant les pinteaux, devant les peintures, devant les tableaux, des rideaux. Pour une raison simple, pour empêcher que les mouches, la poussière, la fumée ne se font sur les peintures.
Donc c'est le tableau qui est derrière.
Voilà, les tableaux souvent étaient dissimulés par de vrais rideaux. Il y avait de vrais rideaux devant les tableaux. Là, c'est comme si... Donc on aurait un tableau à double détente. Un vrai tableau dans le fond, un faux vrai rideau devant, qui... c'est compliqué à exprimer, hein, mais qui reproduirait un faux rideau qui serait devant, mais qui n'existe pas parce que c'est un faux rideau et qu'il est peint. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, si vous voulez mettre un vrai rideau, vous êtes obligé de mettre un autre rideau devant. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est une sorte de vache qui rit, vous voyez, de poupée gigogne, avec à chaque fois des quantités de choses qui s'instillent les unes devant les autres. Et effectivement, l'idée, c'est celle que vous disiez, de la révélation théâtrale, hein, c'est-à-dire qu'on nous dévoile des choses, hein, le voile s'ouvre. Alors on nous dévoile quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a de la musique dans cette scène. Hein.
Les gens se lâchent.
Les gens se lâchent, qu'est-ce qui se passe?
C'est une taverne.
Éventuellement, oui. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, pêle-mêle,
bah, il y en a qui mangent, il y en a qui.
Oui, le personnage a la femme au milieu.
Il y en a qui jouent,
il y en a. Bon, elle n'est pas assise sur les genoux de monsieur Noir, mais c'est pas loin. Bien, ça va pas tarder. Hein. Enfin, ça va peut-être pas tarder. C'est que, effectivement, au centre, on a une dame qui est très entreprise par un monsieur qui a l'air bien entreprenant. Hein. Bon, ça n'empêche pas qu'elle a un gosse à côté d'elle, Mussor. On va pas s'arrêter à ce genre de détails. Hein. Voilà. Donc on a là, effectivement, une femme avec un enfant, mais un monsieur. D'ailleurs, il se passe un peu la même chose là. Hein. Et puis en fait, on peut se demander s'il ne se passe pas la même chose un peu là, partout.
Il y a un couple voilà. Aussi à gauche là.
Voilà, oui. Alors, en fait, c'est un homme avec un enfant. Hein. Bon, enfin, on n'en est pas à ça près. Hein. Tiens, qu'est-ce que vous avez à gauche, là?
18.
Tiens, oui, et puis là? Des œufs cassés, comme par hasard. Des œufs cassés, des huîtres, vous en avez dans un tableau de Steen sur deux. Hein. Par hasard. Hein. Vous devinez ce qu'il y a là? Vous ne le devinez pas. Il y a un petit garçon qui fait des bulles de savon. Vous connaissez le thème. Hein. Vous savez que l'idée, c'est ce qu'on appelle l'homoboula. Vous savez, quand on fait des bulles de savon, ça fait des petites bulles qui ressemblent au monde, hein, et qui, en un instant, éclatent. Et depuis longtemps, hein, dès le XVIe siècle, on représente ainsi l'idée de la fragilité du monde. Le monde, c'est comme une bulle de savon, c'est-à-dire qu'il est là et, hop, d'un instant à l'autre, il peut absolument disparaître. Hein. C'est ce qu'on appelle ces petits garçons qui font des bulles de savon, sont donc des métaphores du monde et de sa fin, des homo boula. Et donc le petit bonhomme qui est là, qu'on voit à peine, hein, est en fait ça. Il vient quasiment au milieu du tableau, dominant la scène, hein, être là. Il est là pour signaler, signifier, comme un cartel, hein, cette fugacité éventuelle du monde. Hein. D'ailleurs, ce tableau, alors, je ne sais pas si son titre est le titre ancien, c'est tout le problème avec le titre de ces tableaux. Enfin, ça s'appelle depuis au moins très longtemps « La vie humaine ». C'est, vous le disiez tout à l'heure, une sorte de théâtre du monde. Hein. Voilà ce qu'est le théâtre du monde. D'ailleurs, vous avez au Louvre un tableau de Steen très comparable à celui-là. Alors, il n'y a pas de draperie, hein. Mais en gros, c'est le même genre de choses. Il se passe des tas de choses. Voilà, il y a des huîtres, il y a tout ce qu'il faut. C'est aussi une sorte de théâtre du monde, sauf que là, il n'y a pas de draperie. Mais c'est tout à fait le même genre d'idée, avec ce côté grouillant d'une scène où il se passe des tas de choses. C'est vraiment le théâtre du monde. Et ça...
C'est un intérieur de taverne aussi, mais dans
c'est un intérieur
coin,
de taverne.
Mais dans un coin, dans une scène.
Non, peut-être pas de taverne.
Il y a
une dame
qui tient un bébé.
Oui, une dame qui tient un bébé.
Il sert du vin.
Est-ce qu'on est vraiment dans une taverne?
Non.
Donc voilà, c'est familial. C'est un repas de dimanche, comme nous en faisons tous les dimanches. Une scène familiale.
Ah oui, c'est une scène familiale.
Et que se passe-t-il dans cette scène familiale? On boit beaucoup. Suffisamment, même. Hein. Hein, donc on boit beaucoup. Une scène familiale où on boit beaucoup. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre à part boire?
De la cornemuse.
On fume, on joue
de la cornemuse.
Ouais.
On lit le journal.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe à droite, là, d'ailleurs?
Il fume, là.
Mais encore.
Il fait fumer l'enfant.
Il y a un adulte qui fait fumer l'enfant. Tiens, cette tête me rappelle quelque chose. C'est Steen, c'est l'autoportrait. Steen s'est représenté là. En fait, c'est plus ou moins la famille du peintre. Hein. où vous voyez effectivement que le peintre fait fumer un gosse. Hein. Enfin, il n'est pas en reste. Là, on a une femme qui est en train de boire un xème verre. Elle est un peu avachie, hein, avec le pied sur sa chaufferette. Hein. Voilà. Bien.
Il y a un chien.
Ben, il y a des chiens partout. Il y a même un perroquet derrière. Hein. Le perroquet coasse comme les humains, n'est-ce pas? Il y a là une mise en parallèle de l'oiseau coassant qui répète tout ce que disent les humains. Mais finalement, est-ce que les humains ne font pas toujours la même chose? Les humains répètent toujours la même chose. Ben, après tout, c'est ça. D'ailleurs, vous savez comment s'appelle ce tableau? Il a un nom.
Le quotidien.
Comme les vieux chantent, les enfants piaillent. Ça veut dire quoi, ça?
Tout le monde crie.
Pardon?
Tout le monde fait du bruit.
Oui, mais ça veut dire aussi autre chose. De plus fort, encore.
Une transmission.
Voilà, qu'il y a une transmission. C'est-à-dire, en fait, les vieux font une chose et les enfants vont le répéter. D'ailleurs, on leur fait répéter. C'est-à-dire que les bêtises des vieux continuent avec les jeunes. En fait, tout se répète tout le temps. Par parenthèse, je trouve qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans le monde, entre Poutine et Trump, quand on voit ça, c'est réjouissant. Moi, je trouve que c'est réjouissant. Parce que ça montre exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, pardonnez-moi, les conneries qu'on fait, on les reproduit. C'est typique. C'est-à-dire que là, l'idée, ce texte-là, est en fait un proverbe hollando-flamand. Hein, un vieux proverbe, qui, un peu comme la pierre de folie, etc., est quelque chose qui est colporté depuis le Moyen-Âge, en gros. Hein. Et la grande idée, c'est de dire, de toute façon, les erreurs que font les adultes, ils vont les transmettre aux enfants, qui vont eux-mêmes les transmettre à leurs enfants, etc. C'est-à-dire qu'une sorte de sentiment un peu désespéré du monde, qui est de se dire, de toute façon, les bêtises que font les uns vont être reproduites par les suivants. C'est systématique. Et cette idée de comme les vieux chantent, les enfants piaillent, va être très souvent reprise par l'art, aussi bien hollandais que flamand, et en voilà un exemple. Et d'ailleurs, notre artiste, hein, qui sait de quoi il parle, hein, c'est lui qui fait la bêtise, hein, il a représenté ça un nombre incalculable de fois. C'est un peu comme les médecins, vous savez. Là, je vous montre un autre tableau. Qui représente exactement la même chose, comme les vieux chantent, les enfants piaillent. Hein. C'est-à-dire éternellement ce retour des choses. Le monde, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les erreurs qu'on fait, on va les faire commettre au suivant, et ainsi de suite. Quoi. Donc il y a une espèce de manière, à la fois, comment vous dire, très joviale, très enjouée, mais aussi très triste, de se dire que, de toute façon, ce sera toujours comme ça. Quoi. C'est vraiment l'idée de ces tableaux-là. Vous voyez là, entre parenthèses, qui reprend hein, vraiment le même genre de choses. Hein.
Les mêmes attitudes.
Ouais, ouais. C'est vraiment quasiment la même chose qui est reprise d'un tableau à l'autre. Ouais.
Le roi bois.
Voilà, alors la même chose, un tableau qui s'appelle le roi bois. Très beau tableau, en clair-obscur. Hein. Vous voyez que le gosse est là le héros de la fête et on le fait boire, je ne sais, quelques boissons. Hein. Voilà, c'est toujours la même chose, des adultes qui vont finalement reproduire les erreurs qu'ils ont apprises de leurs prédécesseurs et qu'ils apprennent aux suivants. D'ailleurs, vous avez au centre ça, c'est quoi ça? Ben, c'est un fou.
Ah oui, c'est un fou.
Ah, avec un fou. Son bonnet.
Oui, avec son bonnet, avec les oreilles, vous savez. C'est un fou, il domine la scène. C'est, voilà, il y a des grelots. C'est une scène où la folie règne sur cette famille, n'est-ce pas? Qui finalement est en train... Alors, on rit, hein, mais on rit dans la vulgarité, la bêtise. Voilà. C'est pas beau, ça, pour regarder le monde d'aujourd'hui, je trouve. Moi, je trouve que Jan Steen, c'est un artiste absolument qui nous parle aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est terrible, d'ailleurs, c'est pas très drôle. Hein. Mais justement, regarder Steen aujourd'hui est d'une vraie actualité, parce que c'est justement un artiste qui nous montre cette espèce de couperet sur lequel on est, où si on regarde le monde sérieusement, il n'y a plus qu'à jeter dans la Saône, quoi, parce que c'est quand même épouvantable. Mais il vaut mieux un peu en rire, parce que et c'est le moyen, finalement, de désarmer le problème. Quoi. C'est finalement ce qu'il nous dit. Et je trouve que c'est une peinture qui est d'une extraordinaire actualité. Et d'ailleurs, il a vraiment beaucoup travaillé dans ce domaine. Alors, quelquefois... tout ça se double de choses plus légères. Par exemple, qu'est-ce que vous suggère ce tableau du Louvre? Toujours du même Steen. Hein. Bon, c'est encore un repas de famille avec un peu la même idée.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui prêche.
Non, non. Oui, plus ou moins, oui, c'est vrai.
Non, il regarde le, non, la cage à oiseaux.
Il chante.
Il y a la cage à oiseaux.
Oui. Il y a peut-être aussi là-dedans d'autres éléments en jeu, mais qui sont plus, à la fois plus bateaux et plus gentils et sympathiques, je dirais, qui font partie du grand tréfonds, comme ça, de ce que la peinture montre toujours dans les scènes de genre. Il y a des choses que les scènes de genre, depuis le Moyen-Âge ou la Renaissance, montent absolument systématiquement, et qui sont, je vais dire, qui ne mangent pas de pain, mais qui sont en même temps des vrais regards sur la vie et l'existence. Voilà, l'idée des âges de la vie. Hein. Donc il y a des jeunes, il y a des vieux. Et puis une autre idée qui vraiment correspond à l'être même, à ce qu'est l'homme. Les cinq sens. Vous avez des gens qui mangent, des gens qui boivent, des gens qui disent, hein, qui touchent. Donc il y a là-dedans, de manière... Mais je dirais que ça devient à partir de ce moment-là une espèce de fond de... Oui, vous vouliez dire ?
Dans tous les tableaux que vous avez montrés, il y a toujours la fiesta comme ça.
Ouais.
Mais en même temps, il y a des décors qui sont très au carré.
Oui.
C'est-à-dire des angles droits,
ouais.
Des croix, parce que c'est une fenêtre en...
Ameneau. Absolument, absolument. Ouais. Oui, mais il y a comme si l'ordre venait cadrer le désordre. Toujours cette espèce de confrontation. Hein, c'est juste. Absolument. C'est très très. Alors c'est peut-être aussi une volonté esthétique, hein, mais que l'on doit sans doute mettre en lien avec ce que vous dites. C'est-à-dire toujours cette espèce de. On a comme du baroque devant et du classique derrière, quoi. De la rectitude d'un côté et du désordre de l'autre. Absolument. Absolument. Alors, je vais vous en montrer deux, trois autres pour terminer la séance. Hein. Par exemple, celui-là. Allez, on va se donner encore 5 minutes. Hein. Oui, une sorte de fête. Qu'est-ce qui se passe ?
Les femmes, elles sont un peu débraillées.
Tout ce monde est un peu débraillé.
Oui, l'enfant au premier plan.
Il y a un enfant au premier plan.
Il verse de l'eau, non ?
Oui.
Je ne sais pas ce qu'il fait.
Qu'est-ce qu'il y a derrière la femme ?
Il y a surtout autre chose.
Il y a un homme qui est par terre, là-bas, derrière.
Là, oui.
Et l'autre avec des verges.
Avec
il y a un porc.
Oui, il y a
un porc, un cochon. Port. Il y en a qu'un ?
Ah non, à droite, il y en a un.
Il y en a un là.
Ah oui.
Et qu'est-ce que c'est que ces jambes là au niveau de la femme à l'horizontale ?
Il y a un enfant.
Pas bien à voir.
Des jambes ?
Non, non, ouais. il y a l'homme sous l'arbre. Il y a un homme avec le chapeau noir.
Non, non, plus à gauche.
À gauche, voilà.
Là ?
Oui, non, en dessous.
Ça ?
Oui.
C'est une femme.
Oui, mais qu'on maintient.
On maintient, on la maintient pourquoi ?
Elle est ivre.
Elle est ivre. Elle est complètement ivre. Vous avez là une femme, un peu débraillée, parce qu'elle est complètement ivre. D'ailleurs, elle tient un vase dans la main.
Et le couple derrière est complètement ivre. Il y en a un, il est tellement ivre qu'il est tombé par terre.
Voilà, il y a des gens ivres derrière, il y a celle-là. Alors, ça, à vrai dire, c'est comme l'un des tableaux que je vous ai passé précédemment, l'illustration d'un proverbe. Vous rappelez, comme chantent les vieux, piaillent les jeunes, hein, qui est donc un proverbe, etc., que Steen a mis en musique, pourrait-on dire. Là, il y a un autre proverbe, qui dit « Un porc appartient à sa porcherie hein. ». Et on voit cette femme, qui n'est jamais qu'une sorte de truie, n'est-ce pas, qui est en train de regarder la truie qui est dans sa porcherie, n'est-ce pas. Donc vous voyez donc une espèce de parallèle avec cette espèce de vulgarité, mais rude comme ça, qui vous apparaît en plein visage, mais qui est encore une fois une volonté très forte de Steen. Hein. Steen est quelqu'un qui surfe sur l'idée d'une sorte de vulgarité, active, précisément pour, nous mettre les yeux en face, quoi. Hein. Et encore une fois, ça, je trouve que ça parle à notre monde d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, on est là devant le miroir de notre monde, quoi. hein, de ce monde du 17e et du monde actuel quelque part. C'est-à-dire devant une espèce de vulgarité à l'œuvre qu'on nous montre, qu'on nous impose, et qui est là. Et finalement, cette femme ivre, elle est bonne pour aller dans son thé-caport, quoi, hein. Elle est toute bonne à ça, hein. Donc vous voyez à quel point il y a là une sorte de dureté, mais qui en même temps est jovial. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ses œuvres. C'est-à-dire, il y a une espèce de réalisme brutal, sordide et vulgaire, mais qui se double d'une manière finalement ironique. Et tout ça, l'ironie, la drôlerie d'un côté, attristée peut-être, hein, mais de l'autre côté, nous permet d'aller vers une sorte de morale qui serait au centre, entre une sorte de monde qui s'écroule, si vous voulez, et un monde dont on n'aurait qu'à rire, en quelque sorte, hein. Et tout ça est décidément à mettre au centre de ces enjeux qui sont notamment les enjeux de la religion à l'époque dans ces territoires du Nord. C'est-à-dire que la morale se trouve peut-être entre cette brutalité vulgaire et entre la rigolade de l'ironie. Voilà. Et c'est ce chemin médian qui est finalement tracé par un travail comme celui de John Steen, à travers, par exemple, ce tréfonds des proverbes qu'il nous soumet là. Alors, il y a plein de choses, hein, je vous en ai préparé quelques-uns, mais qui vont montrer que Steen, il va vraiment toucher le fond du tonneau, hein. Voilà un couple d'ivrognes, hein. Ah oui, ça, on ne nous épargne rien, hein. Et voyez en plus que là, les ivrognes, ils se font piquer leurs vêtements par des musiciens qui sont derrière, qui se tirent avec les vêtements qu'ils sont en train de voler. Hein. Ça nous rappelle la mauvaise compagnie tout à l'heure, vous vous rappelez, hein. Alors que le foie, il y a des choses un peu plus sympathiques. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Hein, vous avez une petite scène de lutinage entre deux bergers dans la campagne, c'est gentil, ça. Hein, c'est un petit peu actif. Bon, enfin, après tout, c'est quand même sympa. Hein. Voilà. Donc c'est... Pardon, vous disiez quoi ?
Le chapeau est amusant.
Oui, oui, oui. Puis alors, vous voyez qu'il y a le bas... Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un nom. Ces choses qui servent, vous savez, qu'on met sur les épaules. Et qui... ça s'appelle... Voilà, ça s'appelle pas un bas ou je sais pas. Enfin, ça se met sur les épaules pour tenir les paniers. Enfin, il y a là un côté un peu enjoué, un peu sympathique, bon, un peu physique, mais enfin, pourquoi pas. Hein. Il y a des choses carrément plus fortes, hein, très très lestes. Hein. Là, ce tableau, alors vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, hein, et là je trouve que c'est très visible, c'est-à-dire qu'on a une différence entre le bazar du devant et la rectitude de l'arrière. Hein. Et ça se trouve sur ce tableau, c'est très 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 visible. D'ailleurs, ce tableau s'appelle « Le monde à l'envers ». Et il parle de lui-même, notamment les deux figures au premier plan. Hein. Vous voulez pire ? Eh bien voilà. Alors ça, c'est « Le monde à l'envers hein. ». Mais il y a ça qui est pas mal non plus. Vous avez remarqué notamment la scène du premier plan quand même. Hein.
La rouge.
Hein, avec le monsieur qui est carrément à cheval sur la jeune femme. C'est quand même très clair et très direct. Hein. Ce tableau a appartenu à Wellington, hein, c'est au Wellington Museum. Hein. Hein, donc Wellington n'est pas toujours le droit vainqueur de Napoléon que l'on sait. Hein. Voilà. Donc voyez à quel point Steen nous emmène, hein, vraiment dans les scènes les plus sordidement moches. Mais enfin, il finit par nous y habituer. Hein. Vous en voulez encore ? Buvons la coupe jusqu'à l'aile. Oh, ça, c'est gentil. Qu'est-ce qui se passe, là ?
Elle triche.
Ouais, elle triche. Vous avez des joueurs de cartes, et au premier plan, effectivement, elle triche. Alors, évidemment, quelquefois, ça peut mal tourner. Et voilà. Il va y avoir une rixe dans l'auberge, entre des joueurs qui trichent. Voilà, au jacquet. Alors, pour terminer tout à fait, parce qu'il y avait un dernier tableau que je vous ai montré tout à l'heure, que voilà. Ce sera la fin.
Il n'a pas la même allure que les autres.
Pas la même allure que les autres. Plus entre guillemets académique. C'est un homme qui est couché, oui. Ça change, oui.
Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Elle a envoyé des choses par terre.
Alors, il y a toujours plein de choses par terre, c'est Steen. Hein. Il y a un bazar, toujours. On lui amène une femme.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle arrive ou si elle part.
Cette scène, vous la mettriez dans le même genre, avec le même statut que tout ce qu'on vient de voir ?
Non. Non. C'est une scène antique, non ?
Une scène antique ? Une scène ? Orientale ?
Non.
Antique et orientale ?
Non.
Or ?
Ah, Titus et Bérénice.
Titus et Bérénice.
Oui, mais le personnage de droite...
Alors, si c'était Titus ou Bérénice, quelque chose comme ça, quel serait donc le statut pictural d'une scène comme ça ? Une scène de genre ?
Non, ah non.
Scène de quoi, alors ?
C'est un
patre d'histoire. Patre d'histoire. Dans ces cas-là, on partirait de la scène de genre et on irait vers la peinture d'histoire. Si du moins, c'est ça.
Non, mais enfin, ça ne peut pas être Titus et Bérénice, parce que ça n'a pas la hauteur et le...
C'est Amnon et Tamar.
Voilà.
C'est pas Titus et Bérénice, mais c'est l'histoire quand même. Ouais. En fait, vous avez bien fait ferrer le pot au rose. C'est-à-dire que vous êtes là, devant une scène qui, quelque part, nous rappelle un peu ce qu'on a vu avant. Hein. C'est un peu traité d'une manière d'une scène de genre, et pourtant, ça n'en est pas une. Il y a des éléments que vous avez bien compris, elle vous mettait un peu, sinon mal à l'aise, ou elle vous interrogeait, cette scène, des éléments qui montrent qu'on n'est pas tout à fait dans une scène normale. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Amnon et Tamar. Amnon est un fils de David, qui en a eu plusieurs femmes. Il est d'ailleurs disons que son demi-frère est Absalom, et Absalom a une sœur, Tamar, qui est donc la demi-sœur de Amnon, et Amnon est tombé amoureux de Tamar. Bon, mais Tamar ne voulait pas du tout céder aux avances de son demi-frère. Alors un jour, Amnon a fait un stratagème, il a dit qu'il était malade, lui aussi. Il a donc demandé à Tamar de venir lui amener une collation, parce que vraiment il ne pouvait pas lui-même et qu'il était très malade. Et au moment où il lui a amené la collation en question, il s'est jeté dessus et il l'a violée, n'est-ce pas ? Et après l'avoir violée, il l'a envoyé paître, enfin voilà. Bien. Donc c'est la scène qui s'est représentée. Donc la scène d'Amnon et Tamar, où Amnon va sans doute, n'est-ce pas, violer Tamar pour ensuite la délaisser, ou peut-être que le viol est déjà fait d'ailleurs, c'est possible. Voilà, vu la pagaille, c'est bien possible. Voilà. Donc c'est intéressant parce que vous avez bien senti qu'on était là devant une scène qui résonne avec les scènes de genre qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Bon, sauf qu'au lieu d'être une femme couchée, c'est un homme, ça change un peu. Donc voilà, mais il y a quand même une manière de représenter de la peinture d'histoire, mais de tirer l'un vers l'autre. Alors il y a plusieurs scènes un peu du même genre. Ça c'est quoi ?
Salomon.
Pas Salomon.
Rachel. Oh, mais il y a un grand prêtre.
Donc on est encore dans des affaires bibliques.
Oui.
Alors en fait, je vous le dis parce qu'on va terminer en deux minutes, mais c'est l'épisode où Moïse, enfant, foule la couronne de Pharaon. C'est que Moïse a été sauvé sur le fleuve par la fille de Pharaon, qu'il est à la cour de Pharaon, mais un jour, dans circonstances que je vais parvenir, Moïse va fouler la couronne de Pharaon. Pharaon, il n'est pas ravi, il voit sa couronne. Et il y a surtout un des conseillers de Pharaon qui lui dit « Vraiment, il faut ce Moïse l'éliminer, hein, parce qu'il te foule ta couronne, donc ça veut dire que plus tard, il va t'éliminer toi-même. » Mais la fille de Pharaon, la princesse, va dire « Non, 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 pas du tout, c'est elle qui a, vous le savez, recueilli Moïse, voilà. » Hein. Donc voilà cette scène, une scène de peinture d'histoire, mais qui est réalisée avec une sorte que, d'enjument un peu caricatural, hein, que vous avez déjà remarqué dans les peintures de Jean de Steen, et qu'il donne à ses peintures d'histoire. Et là, c'est quoi ? Bon, ça, vous allez reconnaître. Fastoche. Il y a une femme au centre, qui triomphe, et un homme enchaîné.
Qu'on fouette.
Plus ou moins.
Ah ouais, c'est un sabre peut-être.
Et par terre, il y a des choses. Samson. Samson et Dalila. Hein, et pas Dalida. Hein, Samson et Dalila. Hein. Samson et Dalila. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, c'est pas grave. Samson et Dalila, vous connaissez cette affaire. Et là, dernière scène.
Waouh.
Ah, le veau d'or.
Le veau d'or. L'adoration du veau d'or.
Donc vous voyez là aussi comment, dans des peintures d'histoire, Steen, j'allais dire, instille à ces scènes avec des grands personnages, Moïse, les fils de David, etc., instille, Samson, une dimension de la peinture de genre qui est son genre majoritaire. Hein. Mais il le fait, vous avez là finalement les mêmes jeunes femmes à cortes, les mêmes objets accumulés, les mêmes scènes un petit peu osées. Alors, il y a moins la vulgarité, encore que dans Samson et Dalila, il y a peut-être moins la vulgarité active que l'on voyait dans les scènes de dérision, si je veux dire, de tout à l'heure. Mais enfin, on est quand même dans un vocabulaire très proche. Et j'aimerais, pour les 2 minutes qui restent, terminer tout à fait cette séance en vous montrant quelques œuvres d'autres artistes, car on a vu des œuvres de Steen, hein, qui est peut-être encore une fois l'artiste le plus révélateur parce que le plus acéré. Hein. Steen, c'est vraiment celui qui pousse le plus loin cette sorte de dérision du vulgaire, de la méchanceté, de la bêtise, autant de thèmes qui, encore une fois, à mon avis, hein, nous parlent absolument aujourd'hui, qui fait de Steen un artiste d'une grande actualité. Alors d'autres vont faire ça de manière plus charmante, légère, magnifiquement, picturalement. Est-ce que ces artistes vous disent quelque chose? Par exemple, là, vous connaissez cet artiste? Peter de Hoorn.
Ah oui, Peter de Hoorn.
Bon, vous aviez là une scène de bordel, hein? On est d'accord, hein? Et là aussi, hein? Bien entendu. Ça, c'est Gérard Terbor. Hein. Même chose. Hein. Ça, évidemment, on regarde ça en disant « Oh là là, quelle jolie robe en satin, etc. » Bien sûr, c'est ça. Mais c'est surtout deux femmes avec un galant. Quoi, hein. Voilà. Donc, voyez comment les peintres travaillent ça, alors avec plus ou moins de douceur. Steen, c'est celui qui va pousser au plus loin cette espèce de dénonciation de la vulgarité et de la bêtise. Hein. Mais d'autres le font avec plus d'élégance, une sorte de sobriété, comme Terbor, par exemple. Et ça,
Vermeer.
Hein. La lettre d'amour, hein, qui est également toujours la même chose. Hein. Tiens, encore une visite à un malade. Ça, c'est de Gabriel Metsu. Encore une visite à un malade. Mais, vous remarquez la draperie à droite. Hein. Gerrit Doux. Tous ces artistes hollandais qui, vous voyez, surfent exactement sur la même vague. Hein. Oh, pardon. Ben, donc, de toute façon, là, il est moins. Hoogstraten, qui est un artiste très, très passionnant. Avec ce tableau, il n'y a rien. Il y a simplement deux pantoufles en plein milieu. Et dans le fond, vous voyez peut-être, il y a un tableau. C'est le tableau de Terbor de tout à l'heure.
Hein. Ah oui,
voilà. Il n'y a personne. Ah ben c'est un tableau extraordinaire. Ça, c'est un tableau extraordinaire. De toute façon, ces artistes sont des artistes extraordinaires. Hein. Extraordinaires sur ce qu'ils disent, mais la manière qu'ils ont de le dire. Hein. Et là, effectivement, là, le passage d'une porte à l'autre, c'est des tableaux dans le tableau, c'est inouï, ça. Hein.
Là, ça faudrait que vous nous donniez des explications un jour là-dessus.
Ah oui, mais on fera un truc sur la peinture dans la peinture.
Ouais.
Et ça. Ben, ça, c'est une œuvre alors, d'un des maîtres de Steen. Je vous dis que Steen avait été, si j'ose dire, élevé par plusieurs peintres, dont un qui s'appelle Van Ostade. Et ce tableau, lui, Van Ostade est un artiste très, comment dire, qui a travaillé de manière très. Enfin, qui a présenté beaucoup de paysans. Hein. Donc, on a beaucoup de scènes comme ça avec des paysans dans des auberges, etc. Très belle couleur. Très belle couleur. Voilà, bah écoutez, c'était le but de la séance d'aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, il faut bien s'arrêter un moment ou un autre. On a 10 minutes de retard. Et voilà. Alors, la semaine prochaine, on ira dans d'autres parages. Je ne vous dis pas, bien entendu, lesquels. Mais on ira à nouveau explorer. Alors, peut-être qu'on ne s'attachera pas à la même idée. On va essayer de desserrer un peu l'étau du monde pour s'aérer un peu, qui sait. Mais je crois qu'Einstein, encore une fois, est un artiste. C'est pas le plus connu hein, de ces artistes-là. Hein. Et pourtant, il est important, c'est peut-être un des plus contondants. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, un artiste comme ça a vraiment des choses à nous dire. Mais l'art d'hier, comme l'art d'aujourd'hui, a toujours des choses à dire. Merci. Bonne soirée.
Vous savez que.